Le Seigneur nous bénit, nous fait du bien, parce que Dieu il exauce nos prières. Dieu il est là, puis il est attentif à nos requêtes, particulièrement à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qui cherchent sa face. On va voir des passages aujourd'hui, c'est ça qui est le message que Dieu veut nous donner. Cherchez-vous la face de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à se fier à son secours. Chercher sa face, c'est pas essayer de voir dans le miroir et qu'on se regarde, puis on se trouve beau, puis là, je vois Dieu, puis là, je pense que j'ai vu la face de Dieu. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport à l'apparence physique de notre apparence ou de l'apparence des autres. Chercher la face de Dieu, c'est d'apprendre à voir Dieu, mais à voir Dieu avec nos yeux spirituels. Parce que Dieu veut se révéler. Il veut qu'on apprenne à le connaître comme qu'il est. Puis il s'est révélé aux hommes de toutes les façons. Il a parlé aux hommes, puis il a dit une marche à suivre aux hommes, dans le but que les gens apprennent à connaître Dieu. Il veut qu'on s'approche de lui, puis qu'on le découvre. Il dit, on s'en va comme en tantanant dans la vie, on s'en va comme en aveugle. Puis on a même vécu une grosse partie de notre vie sans Dieu. On s'en allait comme des aveugles. On savait pas que Dieu était là. On s'était fait des idées sur Dieu. Les religions enseignent des idées sur Dieu. Mais quand une personne commence à découvrir le Seigneur, à se mettre à chercher sa face, Dieu se révèle, puis il veut nous montrer comment ce qu'il est. Je le verrai peut-être pas avec mes yeux physiques, mais avec mes yeux spirituels, je peux me l'imaginer. Il y a des révélations dans la parole pour son apparence, mais il y a des révélations aussi à apprendre à connaître son caractère, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il agit dans le monde. Puis là, on apprend à le connaître. Puis chercher sa face, ça va encore un petit peu plus loin. Ça développe une relation, puis on aime ça regarder à Dieu, parce qu'on peut courir notre vie entière sans même une fois se tourner le regard vers Dieu. Fait qu'à chercher sa face, c'est d'apprendre à nous, les humains, à se tourner et à essayer de voir où ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut faire, commencer à crier à lui et de s'attendre qu'un jour Dieu nous regarde, puis que là, on peut le contempler, puis qu'on peut expérimenter des choses avec. Dans ce monde où ce qu'on vit présentement, c'est un monde de laïcité. Aujourd'hui, où ce qu'on est rendu à l'an 2015, c'est un monde laïque. Ils veulent tasser Dieu. Ils veulent tous vivre une vie sans Dieu. Ils veulent pas apprendre à connaître Dieu. Ils veulent même pas savoir s'il y en a un. Ils veulent vivre leur vie entière avec leur propre capacité, leur propre but, leur propre manière de vivre. Que ça plaise à Dieu ou non, ils s'en foutent. Le monde a débarqué Dieu dans leur système qui gouverne les pays. Ils débarquent Dieu, des écoles aussi, ils débarquent même, ils essayent de débarquer tout ce qui peut toucher à la foi des gouvernements, de tout ce qui peut être une influence qui venant de Dieu, le monde débarque tout cela. Les gens cherchent à vivre sans Dieu. Puis oui, c'est possible de vivre une vie sans Dieu. Mais on a-tu des avantages à vivre une vie sans Dieu? C'est terrible. On va en voir des choses que Dieu nous parle. Puis t'as raison. C'est terrible de vivre sans Dieu. Mais la personne qui est sans Dieu le sait pas. Pourquoi qu'elle sait pas que c'est terrible de vivre sans Dieu? Parce qu'elle connaît pas Dieu. Puis elle connaît pas la suite de l'histoire. Puis elle connaît pas ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi qu'elle est attirée vers le péché? Pourquoi qu'elle est attirée vers la désobéissance? Elle comprend pas que il y a d'autres enjeux autour. Il y a des esprits qui travaillent. Il y a des convoitises dans notre chair qui nous attirent en toutes sortes de choses que Dieu aime pas. Puis il y a l'influence du monde. On a tout, en partant dans notre vie, on a tout ce qui nous était nécessaire pour qu'on puisse s'égarer. Mais on n'a pas tout automatiquement, en venant au monde, reçu ce qui nous y était nécessaire pour qu'on apprenne à connaître Dieu. Ça, pour connaître Dieu, il faut que tu t'arrêtes dans ta vie. Il faut que tu t'arrêtes, puis que là, tu commences à penser à ton état, puis à penser, y a-t-il une révélation de Dieu à quelque part? Connaissez-vous un endroit où il y a des révélations de Dieu?
Dans la Bible.
La parole de Dieu, c'est le livre de Dieu. C'est un trésor. Tu as les révélations écrites par des humains. Oui, tout le monde le dit, c'est écrit par des humains. Ben oui, c'est écrit par des humains, mais c'était pas n'importe quel humain, c'est des humains qui ont vécu quelque chose avec ce Dieu-là. Dieu s'est révélé à eux, ils ont vécu des choses avec Dieu, puis ils nous ont laissé ça par écrit, puis on l'a en nos mains 2000 ans. Mais même plus que ça, il y a des écrits qui datent depuis le début de la création. On a l'histoire de la création, etc.
Puis Dieu, il a écrit ses commandements lui-même dans
sa roche. Dieu a écrit ses commandements lui-même sur les pierres quand il les a donnés à Moïse, puis il est obligé de les réécrire deux fois. Il voulait qu'on connaisse sa parole. Puis quand on dit que les gens veulent, ils cherchent à vivre une vie sans Dieu parce qu'ils veulent avoir un monde laïque, et c'est ce que nous étions avant de connaître Jésus, des gens sans Dieu. On était ignorants des choses de Dieu. On marchait à l'aveuglette dans ce monde, profitant de tout ce qui nous était présenté devant nous. Puis dans Éphésiens 2, le verset 12, ça nous le dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce qu'on était chacun de nous, sans espérance, sans Dieu, sans alliance avec Dieu. On était, comme le dit aussi dans Isaïe 53, le verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tout le monde, parce qu'il n'y a personne ici qui peut se glorifier et dire « Moi, je connais Dieu depuis que je suis au monde », c'est faux. Ça a pris du temps avant qu'on apprenne à connaître Dieu. Puis pour que vous arriviez à connaître Dieu, il a fallu que dans votre vie, vous vous arrêtiez puis faire le point. Peut-être c'est votre conscience qui vous accusait, peut-être c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé puis qui vous a mis des idées dans votre tête pour vous aider à cheminer, pour arriver à connaître qu'il y a une révélation de Dieu dans la Bible, puis que là, il y a quelqu'un qui vous en a parlé un peu plus profondément, puis ça a fait que là, ça a allumé votre intérêt, puis là, vous avez décidé de chercher Dieu, chercher à le connaître, ce Dieu-là, à vouloir tourner votre regard vers lui pour commencer à lui adresser une prière. Parce qu'avant de le connaître, tu t'adresses à n'importe quel Dieu que tu t'es fait. Ça peut être la statue de Marie, ça peut être prier ton oncle qui est mort, ça peut être prier un crucifix ou une image du Sacré-Cœur. Tu sais pas c'est quoi Dieu, c'est les seuls objets qui t'ont été présentés dans ta vie, puis tu tournes vers des idoles, des images, des statues, ce qui est contraire aux 10 commandements de Dieu. Dieu nous disait de pas s'en faire. Mais dans notre errance, puis parce qu'on suivait notre propre voie, on s'est plié les genoux devant des statues puis devant des images parce qu'on ne savait pas. On était aveugles. On était comme des aveugles qui marchaient à l'aveuglette. Un aveugle qui connaît son chemin, là, c'est parce qu'il a passé souvent son chemin puis il sait où il s'en va. À m'amener d'une ville qu'il connaît pas, il sait plus où il s'en va, là. Il les a pu compter ses pas jusqu'à temps qu'il arrive jusqu'au coin de la rue. Puis il va finir par se tomber dans un trou, c'est ce que Jésus dit. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tomber toutes les deux dans le trou. C'est pas de leur faute, c'est parce que c'est de leur faute, puis c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute d'être aveugle. Mais s'ils tombent dans le trou, puis quand que Jésus a dit cette parabole-là, il parlait pas des vrais aveugles selon la chair, il parlait des humains qui sont ignorants des choses de Dieu. Si t'es un ignorant des choses de Dieu, tu es déclaré aveugle par Dieu, puis quand tu cherches à conduire les autres à l'aveuglette, mais les deux vont tomber dans le trou. Comme ça nous le dit dans le Proverbe, chapitre 14, le verset 12, qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Tu peux être sûr, tu peux avoir des convictions sur ta religion. Tu peux dire, moi, je suis convaincu que Marie est dans le ciel, puis je peux la prier, puis qu'elle va m'exaucer. Tu peux être convaincu de ces choses-là. Tu peux même être sincère quand tu pries à Marie. Mais si on se fie aux écrits de la parole de Dieu, n'est pas ressuscitée, elle n'est pas dans le ciel, elle n'a aucun pouvoir, elle n'est qu'une humaine comme les autres, puis on ne doit pas la prier. Fait que si on a reçu cela comme enseignement, on marche à l'aveuglette, on marche contraire à la révélation de Dieu, ce qui fait que telle voie paraît droite à un homme, tu peux être sincère, tu peux être convaincu, mais c'est la voie de la mort. Ça t'entraîne à tomber dans le trou. Dieu veut pas qu'on tombe dans le trou. Il veut se révéler à chacun de nous, il veut nous le montrer c'est quoi le chemin, il veut nous le dire qu'il nous aime, puis qu'il a payé le prix qu'on peut s'être sauvé. Puis là, il nous incite dans sa parole à chercher sa face. C'est ça le titre du message. Cherchez-vous la face de Dieu. Cherchez-vous à connaître Dieu personnellement, là, vous-même, pas vous fier à ce que les autres disent, que vous ayez une relation personnelle authentique avec lui, que vous soyez à l'écoute de sa voix, puis apprendre à grandir dans la connaissance de Dieu, puis à vous rester connecté avec le vrai Dieu, puis de vouloir marcher en communion avec ce Dieu-là, parce que le jour où tu vas marcher en contact avec lui, en obéissant à sa parole, c'est là que tu démontres vraiment que tu connais Dieu. On va le voir dans un des versets qui nous dit ça. Si on veut se l'avouer, là, nous sommes tous à la recherche d'améliorer notre situation. Pas juste les chrétiens, là, même les gens dans le monde, ils cherchent à améliorer leur situation. Tout le monde font des efforts, il y en a qui font des thérapies, il y en a qui vont suivre des cours, il y en a qui vont aller dans des endroits où il y a du monde pour essayer de s'impliquer, puis avoir du social, pour avoir un contact humain avec des personnes parce qu'ils sentent ça. Tout le monde est à la recherche de quelque chose. On recherche, dans nos recherches, on recherche un secours. Des fois, c'est au niveau de la nourriture, parce qu'on manque de nourriture, on a besoin d'aide. Puis là, je dis pas que c'est mal, là, ces points-là, mais c'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes à la recherche de quelque chose. Ça peut être des soins, on recherche à être soigné parce qu'on a des maladies, on a des guérisons, on a besoin de guérison, on cherche, on a besoin de délivrance parce qu'on a des dépendances. Tout le monde cherche, même les gens dans le monde. Il y en a qui cherchent à avoir plus d'amour parce qu'ils sont en manque d'amour. Fait qu'ils cherchent à avoir une famille, à fonder une famille. Ils cherchent un conjoint. Ils cherchent à avoir des enfants. Tout le monde cherche à avoir un contact humain, de la chaleur humaine, soit de se faire aimer ou d'aimer quelqu'un d'autre. Puis c'est naturel, puis c'est correct. Puis ça nous dit aussi, on cherche à se faire des amis, puis c'est pas mal. On cherche à améliorer notre condition. Il y en a d'autres qui vont chercher à améliorer leurs conditions financières, que ce soit en ayant un bon travail, puis il y en a d'autres, ça va être 2-3 jobs que ça prend pour pouvoir arriver à en avoir plus. On cherche à améliorer notre condition. Il y en a d'autres qui cherchent dans leur amélioration à avoir plus d'abondance. Ils veulent plus d'abondance de biens, parce que ça soulage, ça fait du bien, ça sécurise, on se sent, on est entouré de biens matériels ou un bon compte de banque, on va avoir de l'argent dans notre compte, on va améliorer notre condition, puis il y en a que leur amélioration va être basée plus sur le prestige, pour avoir des honneurs, ils veulent être remarqués, ils veulent être populaires, ils veulent avoir de la valorisation, ils sont toujours sentis écrasés, ils veulent s'en sortir. Il y en a qui veulent se surpasser, puis ils veulent essayer de faire comme de l'entraînement pour être de plus en plus fort, de plus en plus beau, puis ils vont se mettre ça des pains de maquillage dans le visage, ou à se faire teindre. Tu sais, on essaie de s'améliorer. Puis il y en a d'autres qui vont chercher dans leur effort pour s'améliorer, ils vont faire des compétitions, puis ils ont des valeurs, puis ils ont des honneurs, puis ils ont des reconnaissances, ils ont des trophées, ils ont des médailles. Tout le monde cherche à s'améliorer. Ils sont rares ceux qui se contentent de ce qu'ils ont, puis ils restent dans leurs petites affaires, puis qu'ils veulent pas changer rien. Ça peut arriver qu'il y en a comme ça, mais la majorité, on cherche à quelque part pour s'améliorer. Mais Dieu nous répond dans sa parole à propos de ces choses-là. Parce que si on met tout notre temps là-dedans, puis on néglige de trouver Dieu, de chercher sa face, on néglige ce que Dieu pourra faire, lui, dans notre vie. Dans Isaïe 55, le verset 2, ça nous dit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? » Là, Dieu, il dit encore, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Dieu est en train de nous dire à quelque part, tu peux être à la recherche de choses pour améliorer ta situation dans cette vie. Mais il veut te montrer qu'il y a quelque chose que tu peux aller rechercher en premier, que ça va vraiment améliorer ta vie. Que cela, si tu recherches là, tu vas non seulement améliorer ta vie, mais tu vas être rassasié. Tu vas avoir atteint ce que tu recherches. Les gens dans le monde qui ont les bras gros de même parce qu'ils font des haltères, ils n'ont pas assez, ils veulent être gros de même. Ceux qui ont un chiffre de banque dans leur compte n'ont pas assez, ils en veulent plusieurs zéros au bout de leur chiffre. Ils n'ont jamais assez, ça ne rassasie pas. Tu peux avoir ça, des pains de maquillage dans le visage, puis même, ça ne changera rien, tu ne seras pas rassasié, tu ne te sentiras pas plus belle ou plus beau. Il y a des choses dans la vie qui ne rassasient pas. On pourra faire des exercices toute notre vie, puis on se trouvera jamais assez vite pour descendre la côte en ski. On va vouloir se pratiquer pour gagner un quart d'une seconde de vitesse, puis on ne sera pas encore rassasié si on n'a pas encore atteint encore la coche de plus. Il y a plein de choses qu'on peut rechercher dans ce monde qui ne rassasient pas. Tandis que Dieu, il dit, pourquoi dépensez-vous toute votre énergie, votre argent pour peser ce qui nourrit pas, pour acheter ce qui nourrit pas, ou travailler pour ce qui rassasie pas? Dieu nous propose, dans ce passage-là, de l'écouter. Oups, je peux être à la recherche, là, full pin sur tous les domaines de ma vie, sans jamais écouter ce que Dieu voudrait me dire. Puis là, Dieu dit, wow! Arrêtez, là, faites le point, je suis là, puis j'ai de quoi vous dire. Là, si on s'arrête, là, il dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, puis votre âme se délectera de mes succulents. Dieu se propose lui-même de nous bénir, de combler nos vides, combler nos attentes, de nous rassasier de ce que les choses du monde ne vous rassasieront jamais. Dieu se propose de déverser des choses dans votre vie, puis vous allez être bénis. Vous allez, même si tu vas en avoir peu, tu vas être rassasié, tu vas être béni, tu vas être content, tu vas manger ce qui est bon, puis tu vas te délecter de mets succulents. Tu vas te sentir privilégié. Une fois que Dieu a commencé à te bénir et à te donner ce qu'il a à te donner. Il veut nous faire comprendre d'arrêter de courir à la poursuite des choses dans ce monde. Si c'est pas lui qui nous a dit d'y aller, on devrait arrêter ça tout de suite. Puis de commencer à écouter ce que lui a à dire sur notre vie, sur notre position, puis sur les choses que lui va améliorer. Puis quand que lui va commencer à déverser dans nos vies, on va sentir les gens les plus bénis, les plus épanouis. On va sentir qu'on a atteint ce que Dieu nous demandait. Amen.
Amen.
Savez-vous que Dieu il a une réponse pour tout changement nécessaire dans votre vie? Dieu il a une réponse. Il est capable d'agir puis d'intervenir pour tout changement nécessaire dans votre vie. Tout ce qui peut nous rendre heureux, il est capable de nous le donner, puis qu'on se sente comblé. Tout ce que vous avez besoin comme guérison, il peut vous guérir. Ou tout ce que vous avez besoin comme délivrance, vous voulez être délivré de la drogue, de la boisson alcoolique, même de la cigarette, il est capable de délivrer de la cigarette, il est capable de délivrer n'importe quoi. On a juste à lui demander, puis à regarder à lui, puis à s'attendre à ce qu'il vienne de faire. Puis Dieu est capable de le faire. Puis vous allez être surpris, puis vous allez le sentir bien mieux une fois qu'il vous a accordé sa bénédiction. Là, j'ai donné cet exemple-là, mais il peut nous changer de n'importe quoi. En autant qu'on s'arrête, on regarde à lui, on l'écoute. Puis là, il va nous communiquer ce qu'il veut nous donner. Dans le psaume 121, les versets 1 et 2, ça nous dit, ça c'est un peu une parabole, mais c'est une vérité en même temps. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Puis là, on se pose une question, d'où me viendra le secours? Parce qu'on regarde aux choses qui ont de l'air à marcher dans la vie. Ah oui, tel traitement, il est bien bon. Ah oui, telle affaire. Là, on cherche des choses élevées dans le monde, puis on pense que si on se colle auprès de ça, qu'on va recevoir tout ce qui est nécessaire à notre vie. On cherche une réponse à nos besoins. D'où va me venir le secours? Mais le verset 2 nous le dit. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de Dieu. T'as beau regarder vers les montagnes de ce monde pour essayer d'atteindre quelque chose, pour recevoir l'aide que t'as besoin. Regarde pas là en premier. Arrête-toi et regarde à Dieu. Dieu a de quoi en réserve pour moi et pour chacun de vous. Puis la suite de ce passage-là, ça nous dit dans ce passage-là que Dieu a promis de nous soutenir. Il a promis de nous accompagner dans notre pèlerinage, parce qu'on se confie en lui, parce qu'on lui fait confiance, il a promis de nous soutenir dans notre marche, puis de nous accompagner. Dans le psaume 121, si on continue à lire quelques versets, Dieu dit, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Ça veut dire que tu vas marcher dans cette vie avec fermeté, avec foi, avec courage, puis Dieu va te soutenir, Dieu va être ta force, puis il va t'accompagner, puis il va te bénir, puis il va multiplier les choses de ta vie. Ta vie va s'en aller dans la victoire. Ça ne dit pas que tu n'auras pas de combat, mais tu ne trébucheras pas, tu n'abandonneras pas, parce que Dieu va être ton soutien. Il dit, « Permettra pas que ton pied chancelle. » Il dit, « Celui qui te garde, il ne sommeillera point. » Dieu ne dort pas au gaz. Nous, ça nous arrive de dormir au gaz. Mais Dieu, il a promis une promesse, il a promis d'être avec toi, il a promis de t'accompagner. Il ne dort jamais. Il est toujours là, il est toujours prêt à te regarder, puis à t'écouter, puis à t'aider. « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Amen.
Quand tu t'arrêtes puis tu regardes à Dieu, là, tu dis, « Seigneur, je veux t'écouter. » Il dit, « Arrêtez puis écoutez. Sachez que je suis Dieu. » Là, tu peux t'arrêter puis l'écouter. Puis là, tu commences à mettre ta confiance dans ses déclarations. Où est-ce qu'on les retrouve, ces déclarations?
Dans la Bible.
Dans la Bible. On vient d'en lire plusieurs. Il nous dit qu'il va être avec nous, qu'il ne nous délaissera pas, qu'il va nous accompagner, qu'il va nous soutenir, il va nous garder de tout mal, puis il va garder notre âme. Puis il va garder notre départ et notre arrivée. Fait qu'il est avec nous du début jusqu'à la fin, puis il dit, dès maintenant et à jamais. Dieu se promet, comme qu'il a promis à travers Jésus. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec ses disciples. Dieu est avec nous. Que tu sois un petit dans cette vie ou que tu sois un grand, si tu apprends à te confier en l'Éternel, Dieu va être ton soutien, Dieu va être ton secours, c'est lui qui va être t'accompagner dans ta marche, c'est lui qui va t'ouvrir les portes, c'est lui qui va te bénir. Merci Seigneur pour ses promesses. Dans le psaume 46, le verset 1, ça nous dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Fait que tu peux avoir confiance qu'une fois que tu t'arrêtes, puis tu commences à écouter Dieu, que tu cherches sa face, là tu cherches à le voir, tu cherches à l'entendre, tu cherches à apprendre ce qu'il a à dire. Quand tu t'arrêtes, puis que là tu l'écoutes, puis tu donnes des promesses, tu t'accroches à ses promesses. Puis Dieu a dit, je vais être ton refuge. Dieu va être l'endroit où qu'on peut se réfugier. Quand on vit des combats, on vit des difficultés, on peut commencer à regarder à Dieu, puis y demander, d'y confier nos soucis, nos inquiétudes, nos combats, puis lui parler, puis là, d'y mettre notre confiance, puis on se dit, l'Éternel, il a ma vie entre ses mains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Dès maintenant et à jamais, qu'il nous dit dans ce passage-là. Fait que si Dieu est ton refuge puis ton appui, c'est parce que t'apprends à connaître Dieu, là. T'apprends à connaître que Dieu veut que tu te réfugies en lui, puis il veut que tu t'appuies sur lui, que tu lui fasses confiance. Si t'entreprends des choses, tu vas dire, c'est pas ma force ou mes capacités qui me font réussir ce que je fais. Je m'appuie sur Dieu, puis je crois que c'est Dieu qui va le faire. Dieu va m'ouvrir les portes. Dieu va fermer les portes qui ont besoin de fermer. Dieu va me guider à gauche ou à droite. Dieu va me bénir. Dieu va pourvoir. Dieu va me donner la force que j'ai besoin. Dieu va nous garder dans sa main jusqu'à la fin. T'apprends à mettre ta confiance en Dieu. Puis là, tu dis, Dieu est mon secours. Un secours qui manque jamais. Pourquoi qu'il manque jamais? Parce qu'il s'endort pas sa job. Merci, Seigneur. Il faut apprendre à chercher l'Éternel. Il faut apprendre, frères et sœurs, à chercher l'Éternel. Tu peux être chrétien et mettre en cause ta confiance dans tes capacités. Tu peux être chrétien puis penser que tu es capable. Tu es quelqu'un, puis que c'est toi qui vas le faire, puis que parce que tu as des efforts à faire, puis là, tu te confies en ta force plutôt que d'apprendre à te confier que Dieu va faire les choses. Il faut que tu apprennes à chercher l'Éternel, à chercher sa face, puis à l'invoquer. Comme ça nous dit dans Timothée, il dit, avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, puis pour tous. Il dit, avant toute chose, commence par mettre les choses en prière. Fait qu'il faut que tu apprennes à chercher Dieu, puis à l'invoquer. L'invoquer, ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, j'ai besoin que tu me diriges. L'invoquer, c'est de commencer à lui demander de venir t'aider. À pas y aller par toi-même, puis tu pars en courant, puis tu fais des affaires par toi-même. Tu peux réussir certaines affaires, mais Dieu, il est pas glorifié. Puis Dieu, il veut qu'on apprenne, même si tu penses être capable, il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Puis tes talents vont augmenter. Il va te bénir davantage, ton assurance, tes révélations vont être plus grandes. Dieu va être tellement content d'investir dans ta vie parce qu'il est glorifié au bout de la ligne. Il dit, il faut apprendre à chercher l'Éternel et à l'invoquer afin de recevoir de lui sa bénédiction dans nos vies. Dans Isaïe 55, le verset 6, ça nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Faut pas attendre d'être mort pour dire, oh, si j'aurais su, j'aurais demandé au Seigneur de m'aider. Ben oui, t'es pas obligé d'attendre d'être mort pour te dire ça. Déjà aujourd'hui, tu peux commencer à le faire. Pendant que t'entends ce que tu entends aujourd'hui, commençons donc à invoquer le Seigneur pendant qu'il se trouve. Si je suis en train de parler à quelqu'un qui a pas encore donné sa vie au Seigneur, il a pas encore reçu Jésus comme son sauveur personnel, ça s'adresse à lui aussi. Attends pas d'être mort pour aller à Jésus pour être pardonné de tes péchés. C'est tout de suite, maintenant, accepte-le. Donne-lui ta vie, puis il va venir dans ta vie, puis il va commencer le changement. Tout ce que tu as besoin, il va t'équiper, il va t'accompagner, il va te bénir, mais commence par aller à Jésus. Faut que tu cherches l'Éternel pendant qu'il se trouve, puis de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Parce qu'il va arriver une période dans la vie où l'enlèvement va arriver, la porte de la grâce va être fermée, puis après ça, il va être trop tard pour cogner. Il y en a qui vont essayer de cogner, il va être trop tard. Après l'enlèvement, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé. Ce n'est que les jugements de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur la planète. Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. On voit ça dans Jérémie 29, les versets de 11 à 13. Dieu, il a des projets pour nous. Dieu, il a un plan pour notre vie. Ça nous le dit aussi dans le Nouveau Testament. Ça dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de foi, ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin qu'on les pratique. Dieu, il a déjà préparé la suite de notre vie avant même qu'on soit arrivé là, il sait déjà tout ce qu'on va vivre. Mais il faut apprendre à se confier en lui. Il fait confiance. Il y a des projets pour nous. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage-là. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Dieu a un plan. On marche pas à l'aveuglette dans notre vie chrétienne. Si on veut faire confiance à Dieu, on commence par arriver à mettre notre confiance, par aller chercher sa face, par lui demander du secours. Puis là, notre vie commence à s'enligner dans le chemin qu'il veut nous emmener, parce qu'on crie à lui puis qu'on lui demande. Sinon, on peut être chrétien puis courir comme une tête, comme une poule pas de tête. Une tête pas de poule, ça court pas vite. Mais une poule pas de tête, ça part, puis ça s'épouse, ça s'en va, mais elle court dans n'importe quelle direction. Tu peux être un chrétien qui court dans n'importe quelle direction, puis tu sais pas où tu t'en vas. Comme une poule pas de tête. Dieu, il a des projets, puis il faut arriver à connaître ses projets. Moi aussi, j'en ai des projets. Ça veut pas dire que c'est les projets de Dieu. Quels sont les meilleurs projets à avoir?
C'est
les projets de Dieu. Faut que j'apprenne à connaître. Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Dans quoi tu veux m'amener? Je te fais confiance pour que tu m'amènes où tu veux m'emmener. Puis je sais que je vais être dans ce que tu as déjà préparé pour moi. Puis ça va être ce qu'il y a de meilleur. Ça va être ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous connaît entièrement. Si tu le consultes pas, puis tu t'engages dans des affaires qui sont pas de lui, tu vas trouver ça pesant, fatigant. Tu n'auras pas son aide. Là, tu vas crier après ça, mais tu vas avoir un bout de souffrance à passer. Faut que tu apprennes à demander à Dieu pour y faire, qu'il te guide dans ce que tu as à faire. Puis là, après ça, quand tu connais sa direction, il va t'accompagner, puis il va te soutenir, puis il va te bénir. Dieu, il y a des projets qu'il a formés pour nous. Ça nous dit ça dans Jérémie 29, le verset 11. Il dit des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Fait que quand tu cherches la face de Dieu, tu cherches Dieu, Dieu va te révéler un chemin qui est le meilleur chemin que tu ne pouvais pas passer. Tu vas avoir un avenir et de l'assurance. Tu vas te ramasser des récompenses pour la vie éternelle. Les meilleures récompenses sont dans son chemin à lui. Je ne pensais pas que ça va être meilleur ailleurs. C'est une tromperie. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Faut y faire confiance. Il dit, vous m'invoquerez, parce qu'on a cherché sa face, qu'on veut connaître son plan. Il dit, vous m'invoquerez, et vous partirez, et vous me prierez, et je vous exaucerai. N'est-ce pas formidable?
Amen.
On va invoquer Dieu, on va partir, puis on va le prier, puis il va nous exaucer. Comment est-ce qu'il y en a de personnes qui aiment ça être exaucées dans leur prière? Tout le monde, hein? Mais vous venez d'avoir la recette comment faire pour être exaucé. Commencez par invoquer Dieu pour savoir dans quelle direction. Les décisions que vous avez à prendre, là, des fois, ça l'entraîne des affaires. Puis on a des. Faut être sûr qu'on est dans l'endroit de Dieu. Quand Dieu te conduit, pas de problème. Il te montre des affaires. Tu fais ce que tu as à faire, tu apprends. Dieu, là, il va être avec toi dans tout ce que tu fais parce que tu es dans son chemin. Il va te bénir, il va t'écouter dans tes requêtes, puis il va t'exaucer. C'est ce que je veux, moi aussi. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est dans le même verset, ça. Tu veux que Dieu te bénisse, tu veux qu'il écoute tes prières puis qu'il t'exauce. Mais il dit, cherche-les. Il dit, vous me chercherez puis vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une belle phrase, mais en pratique, quand tu veux l'appliquer en... Comment est-ce qu'on peut chercher Dieu de tout notre cœur? Ça peut arriver souvent qu'on prie, puis notre cœur n'est pas entier à Dieu. On est partagé. On a des plaisirs dans le monde, des choses que Dieu ne veut pas. On vit de façon ce qui déplaît à Dieu, qu'on attriste le Saint-Esprit, puis on ne demande jamais pardon. On vit tout croche. Puis on pense que Dieu va nous exaucer tout de suite nos prières instantanément à chaque fois qu'on en fait. Non. Chercher Dieu de tout ton cœur, c'est bien plus que 2 minutes par jour. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà compté combien est-ce qu'il y a de minutes d'une journée? Il y a 60 minutes à chaque heure, puis il y a 24 heures d'une journée. 24 fois 60, ça donne peut-être 2000, je sais pas, moi je sais pas. Mais il y en a des minutes d'une journée. Puis si je prie juste 2 minutes dans ma journée, j'ai-tu cherché l'Éternel de tout mon cœur?
Non.
C'est même pas 1/1000 de mon temps. Je pense qu'il faut apprendre, frères et sœurs, à se connecter par rester connecté. C'est ça qu'il faut développer. Dieu aime ceux qu'il cherche. Je ne dis pas qu'il n'aime pas les autres. Il les aime puis il appelle tout le monde à marcher dans ce chemin-là. À ce qu'on cherche continuellement sa face. Qu'on arrive... La question qui était au début du message, cherchez-vous la face de Dieu? Il nous dit dans ce passage-là, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu garantit la révélation. Il dit, vous allez me chercher puis vous allez me trouver. Il garantit qu'il va se révéler. Tu vas vivre des choses incroyables, des révélations. Il va te parler dans ton esprit. Tu vas être une assurance qui va se développer dans ta vie. Tu vas marcher par la foi. Tu vas vivre des exaucements de prières, des miracles, des signes, des prodiges. Ta vie va être pleine de fruits. Tu vas être heureux, rempli de la joie puis du Seigneur puis de bénédiction de sa part. Mais tout découle de premièrement de chercher sa face de tout ton cœur. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches de tout ton cœur. Pour ceux qui avaient abandonné l'Éternel, parce que ça peut arriver que dans notre vie chrétienne, on néglige notre communion avec Dieu. Tu peux être à l'église à tous les dimanches, puis ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est pas là dans les prières. T'écoutes la prière, mais tu te mets en te penchant pour prier. Mais quand la personne prie, t'écoutes pas, tu penses à d'autres choses. Ton cœur est pas là. Tu peux être en train de chanter, puis tu chantes les chants, tes prononces de ta bouche, mais ton cœur il est pas là. Tu peux être en train d'écouter un message, puis de penser au match de hockey qu'il y a eu hier, puis ton cœur est pas là. Tu peux être chez vous en prière, mais c'est juste tu pries parce qu'il faut que tu pries. Mais tu pries pas parce que tu sens tu veux développer la recherche de la communion avec Dieu, puis tu vas apprendre à connaître Dieu, puis ton attachement à Dieu, tu veux qu'elle grandisse, puis prier dans le sens de chercher de plus en plus intensément, dans une communion réelle et en même temps, de plus en plus fréquemment. Tu veux parler à Dieu, tu veux y parler souvent. Tu es tellement bien quand tu es connecté que tu veux rechercher cette expérience-là de plus en plus. Mais ça peut arriver que tu abandonnes tout ça parce qu'on se refroidit, parce qu'on a toléré des péchés dans notre vie, qu'on les garde, puis ça brise notre communion avec Dieu. On éteint l'esprit, puis on l'attriste, puis on s'éloigne. Puis on est rendu indifférent à la prière, à la recherche de sa communion, puis de chercher sa face. Mais Dieu dit, si tu es dans cette condition-là, il dit de revenir à lui. Il dit, revenez à moi, puis je reviendrai à vous. Dieu, il ne m'a pas droit à personne. Tant que tu n'as pas transgressé la voie de non-retour, parce que tu auras blasphémé le Saint-Esprit, tu peux revenir, c'est comme l'enfant prodige, il est parti dans le monde dépenser ce qu'il avait reçu de son père, puis il était rendu esclave des choses du monde, puis il était rendu dans les problèmes et les difficultés. Il est revenu en lui-même, puis il a pensé comment ce qu'il était bien dans la présence de son père, puis il a décidé de revenir, mais il a dit à son père, « Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Puis le père, lui, a renouvelé la communion avec son fils, puis il était content de recueillir son fils, puis il dit, « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, puis il est maintenant sauvé. » Dieu rappelle à lui tous ceux qui l'ont abandonné, tous ceux qui ont pris des détours, puis qui ont marché dans le monde, puis qui se sont livrés au péché. Il vous rappelle, il nous rappelle, il veut que tous ceux qui l'ont connu puissent renouveler leur communion avec le Père, puis il veut que nous qui sommes là, qu'on persiste à grandir dans cette communion de plus en plus. Dans Zacharie, ça nous dit ça, cet état-là, justement, de ceux qui l'ont abandonné. Dieu a dit à Zacharie, « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » Son cœur à Dieu, c'est que le monde revienne à lui. Puis si une personne sur la terre est privée de la communion avec Dieu, c'est pas parce que Dieu voulait pas qu'elle revienne, c'est parce que la personne néglige de retourner. Cette personne-là recherche d'autres choses. est attiré à se livrer à d'autres choses au lieu de se livrer à Dieu comme un esclave de Dieu puis de vivre pour Dieu. Elle se livre aux plaisirs de ce monde puis aux passions puis elle court dans le monde puis là est perdue. Mais Dieu, il veut pas que les gens se perdent. Il veut qu'ils reviennent à lui. Il dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent point puis firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Il y a des gens qui vont entendre l'appel de Dieu qui les rappelle à revenir puis ils vont s'endurcir davantage puis qui voudront pas revenir. Ils ont tout à gagner de revenir. Mais ils veulent améliorer leur vie dans le monde plutôt que d'améliorer leur position devant Dieu. On a tout à gagner de revenir à Dieu, puis de rester connecté, puis d'y mettre tout notre cœur, tout notre temps, toute notre énergie, tout ce qu'on a, prendre, puis racheter même le temps qu'on perd dans toutes sortes d'activités. Rachetons le temps, investissons-nous davantage à chercher la face de Dieu, puis on va vivre des choses extraordinaires dans sa présence. Des miracles, les guérisons, les résurrections, peu importe les actions surnaturelles qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. On va en avoir davantage et davantage si on se connecte, qu'on reste connecté. Si on s'endurcit, puis on veut jouer à la religion, puis juste avoir du fun ensemble, puis on vivra pas rien de la présence et de la puissance de Dieu. Mais Dieu, il veut nous bénir puis nous équiper. Jésus, il a donné une promesse. C'est une autre promesse, mais il y en a des centaines de promesses dans la Bible. Mais une promesse qui a rapport à cela, que tu peux chercher, peu importe qui ce que t'es, dans Luc 11, le verset 9 à 13. Jésus, il dit, moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, c'est important qu'est-ce qui est écrit là. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, il dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Il dit, celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu veut agir grandement dans nos vies, au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Il dit, puis là, il donne un exemple, il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou si tu te demandes un poisson, tu vas-tu lui donner un serpent au lieu d'un poisson? Puis si tu te demandes un œuf, tu vas-tu lui donner un scorpion? Il dit, si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent.
Amen.
Dans le verset, ça dit, cherche l'Éternel de tout ton cœur, puis tu vas le trouver. Mais il dit, cherche, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit. C'est qui ça, le Saint-Esprit? C'est Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur, puis à plus forte raison, il va te donner le Saint-Esprit, qui est Dieu. Tu vas naître de nouveau, tu vas ressusciter en nouveauté de vie, tu vas devenir une nouvelle personne quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais si tu l'as déjà, tu vas en être rempli, tu vas en être revêtu, tu vas être équipé, il va te donner tous ses dons, il va faire en toi tous les fruits, il va te donner tout son équipement, son armure. Il y a une armure de chrétien, il veut nous équiper, puis il veut nous apprendre le combat, puis il veut nous rendre plus que vainqueurs dans nos vies. Mais il faut y demander, puis d'aspirer, puis de rechercher, puis de tout notre cœur réclamer ce qu'il y a à nous donner, puis il va nous le donner, puis tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans le Saint-Esprit. Si on a soif, on va goûter, on va boire, puis on va être rassasié. Les choses du monde, t'as beau t'entraîner, mais l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Si tu veux que ta vie soit comblée dans tout, commence à devenir une personne pieuse, c'est une personne qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui cherche la communion avec Dieu, qui s'attend, qui met sa confiance sur Dieu, puis s'attend de recevoir de Dieu. Puis une fois que tu reçois, t'es comblé, t'es équipé, t'es rassasié, t'es béni, t'es restauré, t'es guéri, t'es délivré, tout est là. T'es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Chercher Dieu dans le Nouveau Testament, c'est de rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Cherche Dieu. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Plus que tu y laisses la place au Saint-Esprit, plus t'es rempli, plus t'es revêtu, plus t'es béni. Qu'est-ce que t'as besoin de plus? Puis le reste, dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance, il va, il cherche premièrement le royaume et la justice. Cherche les choses d'en haut en premier, de tout ton cœur, puis du tout le reste, je vais te le donner par-dessus. T'as pas besoin de te casser la tête. Il connaît tes besoins. Occupe-toi des besoins de Dieu. Il y a des besoins pressants pour le royaume. Ces besoins-là, c'est les royaumes, c'est les besoins du royaume. Cherche le royaume et sa justice. Cherche à vivre d'une manière juste. Cherche les choses du royaume, puis Dieu va s'occuper du reste.
Que sa volonté soit faite.
Que sa volonté soit faite. Amen. Dans 1 Jean 4, 13, ça nous dit, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. » La connexion commence là. Tu vas à Jésus, tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel. La connexion commence là. Tu demeures en Jésus, puis Jésus demeure en toi. En ce qu'il t'a donné son esprit. Je t'ai cherché de tout ton cœur, puis il dit à combien de fortes raisons il va te donner le Saint-Esprit. Fait que cette nouvelle vie-là va commencer si tu ne l'avais pas, puis tu l'as déjà, mais ça va être continuellement renouvelé d'être dans la présence du Saint-Esprit. Comment faire pour trouver Dieu? Comment faire pour le recevoir? Quand là, je parle à ceux qui l'ont pas reçu. À ceux qui n'ont jamais reçu, qui n'ont jamais vécu ça, d'être nés de nouveau. Ils n'ont jamais vécu d'expérience qui lui prouverait qu'ils sont à Dieu, puis qu'ils sont sauvés, ou qu'ils ont reçu une touche de Dieu ou quelque chose. Mais il y a une manière de le recevoir. C'est écrit dans la parole de Dieu, comment faire. Puis on en parle régulièrement, parce que c'est ça qu'il faut prêcher, frères et sœurs. On peut prêcher sur n'importe quel sujet, mais les plus importants, c'est les sujets qui font qu'on se retrouve puis qu'on découvre la profondeur de garder cette relation-là. Il n'y a rien de plus important que ça. Il dit, il y a juste une façon pour y arriver, pour goûter, de recevoir le Saint-Esprit. La porte d'entrée dans cette relation avec Dieu, c'est Jésus. Tout ce que tu vas recevoir de Dieu dans ta vie, ça a rapport qu'est-ce que tu fais de Jésus. Que ça soit pour naître de nouveau, faut que tu passes par Jésus. C'est pour toutes ces autres bénédictions, faut que tu passes par Jésus. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est l'intermédiaire. C'est pas Marie, c'est pas une fausse religion. C'est pas les idoles, les statues, les images, puis tous les objets de croyance que le monde se sont mis. Dans 1 Jean 5, 20 et 21, ça nous révèle cela. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pourquoi qu'il est venu? Parce qu'il a quitté le ciel, puis il est venu les deux pieds dans le monde à travers Jésus. C'était Dieu qui a quitté le ciel. Nous savons que le Fils s'est fait chair, que le Fils y est descendu, qui est venu dans le monde. Et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. À cause de sa venue, ça nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. C'est qui le véritable Dieu? C'est important de le savoir parce qu'il y a plein de monde qui cherche des dieux puis s'en ont fait une multitude. Oui. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Wow! Dans ce passage-là, ça dit que le Fils de Dieu il est venu en chair et en os, puis il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Puis là, il nous dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si t'as Jésus, t'as Dieu avec toi. Si t'as pas Jésus, t'as pas Dieu avec toi. Il y a un seul Dieu qui a été révélé à travers Jésus-Christ. Si tu as Dieu, si tu as Jésus, tu as Dieu. Ça nous le dit dans d'autres passages, j'en ai pas un autre entre autres. Oui, tout a rapport avec Jésus. Dans Jean 3, 36, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Tout se passe à Jésus. Le pardon, recevoir le Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit « Je vais vous envoyer le Consolateur. » Quand une personne naît de nouveau, c'est Jésus qui l'envoie. C'est Jésus qui pardonne, c'est qu'à cause de son sacrifice à la croix, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, à cause qu'il l'a fait, ce sacrifice-là, je peux recevoir le pardon, je peux être déclaré juste, je peux recevoir le Saint-Esprit, je peux être revêtu du Saint-Esprit, recevoir les dons spirituels, je peux, toutes ces bénédictions, tout ce qui fait partie de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament, puis en plus recevoir le cadeau de la vie éternelle, puis d'avoir ta place d'inscrit. Une place là, qui nous attend dans le ciel. Jésus dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Après que j'aurai préparé une place, je reviendrai puis je vous prendrai avec moi afin que vous soyez toujours avec moi. Ça nous attend. La place est acquise puis c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Jésus qu'on a une place là. Tout se donne à travers Jésus. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Mais quand tu cherches Dieu, quelqu'un qui a le cœur l'a dit, moi je veux chercher Dieu de tout mon cœur. Mais en réalité, tu cherches Jésus en même temps. Tu veux tout ce que Dieu a donné, puis tout est donné à travers Jésus. Amen. Tu peux pas tasser un, puis dire, moi Jésus, il faut que tu réalises que Dieu, tu veux l'atteindre, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Nul ne va aller au Père que par Jésus. Et Jésus ajoute que pour maintenir notre communion avec Dieu, parce que c'est important, là, on l'a reçu Jésus, on l'a tout accepté un jour. Moi, ça fait 35 ans. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour me démontrer que je suis encore en communion avec Dieu? Qu'est-ce qui me prouve que je cherche encore sa face puis que je suis avec encore aujourd'hui? Mais il y a des choses que la Bible nous dit pour faire le point, pour nous aider à faire le point. Puis ça nous examine encore notre cœur pour nous dire, est-ce que notre cœur est Jean 14, 23? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si tu aimes Jésus, là, si tu veux vraiment montrer au Seigneur que tu cherches de tout ton cœur, puis que c'est quelque chose d'important dans ta vie, c'est ta relation avec lui. S'il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Là, ça veut dire que si tu dis que tu l'aimes de ta bouche, mais que tu ne mets pas en pratique ce qu'il t'enseigne, tu es en train de te compter des menteries. Dieu veut qu'on réalise, tu cherches Dieu, tu veux chercher de tout ton cœur, mais ton regard va être faire attention à mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné. Si tu tombes, tu te dépêches à demander pardon, à te relever, à fuir ces occasions-là. T'as un combat qui s'engage dans ta vie. À résister contre ce que Dieu aime pas, puis à rechercher ce que Dieu aime. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. N'est-ce pas formidable de savoir que Dieu viendrait habiter chez nous? Attends, Seigneur, m'allait faire le ménage avant. Dieu veut venir habiter chez nous, puis le ménage qu'il veut qu'on s'applique, c'est pas dans la poussière, c'est les meubles. Le ménage dans nos vies pour enlever le péché. Obéir à sa parole, quand tu fais ça, tu es en train de laver l'appartement où ce que Dieu va habiter. Il va venir chez vous, ça dit, nous viendrons à lui, puis nous ferons notre demeure chez lui. Dieu se propose à habiter dans des endroits purifiés. Ça veut dire qu'on a peut-être du ménage à faire si on en veut plus. Si on veut tout ce que Dieu a donné, chercher l'Éternel de tout ton cœur, c'est d'arriver à être prête même à laisser Dieu te montrer tout ce que tu as changé, puis être prête à vouloir changer. Sommes-nous prêtes à vouloir changer de vie? Si nous gardons sa parole, il demeure en nous et nous en lui. C'est ça qu'il faut entretenir, frères et sœurs. Garder sa parole démontre qu'on le cherche de tout notre cœur. C'est pas juste quelqu'un qui se vante. « Oh, ben moi, je recherche la parole. » Puis là, il vit dans le péché de toutes les façons. Je ne veux pas énumérer des péchés, là, mais il y en a des listes dans le Nouveau Testament. Puis Dieu veut qu'on fuit cela. Si tu n'es pas parfait, ça peut arriver que tu n'es pas parfait. On est tous des pas parfaits, mais on vise toute la perfection. On veut devenir comme Jésus. On veut obéir à sa parole. On veut obéir à ses commandements. Dans 1 Jean 2, verset 3, c'est le dernier verset, il dit, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, puis la vérité n'est point en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Quand tu gardes sa parole, tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes de tout ton cœur. C'est ça que ça veut dire. Puis il dit « Cherchez-moi de tout votre cœur, mais m'en pratique sa parole, puis ça lui démontre. » Tu peux avoir de la misère dans certains points, m'en dis de l'aide, il va t'aider, puis il va t'amener à être une personne obéissante. Et puis là, ça dit dans le verset, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Oui, faut que tu marches comme Jésus, c'est le but à atteindre. Puis un autre passage, Jésus a dit, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Puis ça dit dans un autre passage, dans l'Église, Dieu a donné des dons pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, puis en vue aussi de la croissance du peuple, afin que tous parviennent à l'unité de la foi, puis que tous arrivent à la stature parfaite du Christ. Tous, dans l'Église, vont devenir à être comme Jésus. Puis là, on va démontrer qu'on est vraiment en communion avec le Père et le Fils, quand on arrive dans cela. En attendant, vous allez trébucher. Si vous trébuchez, vous demandez pardon, vous demandez à Dieu de vous relever, puis de vous fortifier, puis de déraciner ce qui doit être enlevé, ou d'ajouter ce que vous avez besoin. Dieu va faire l'ouvrage, mais notre enlignement est vers l'obéissance à sa parole. Vous allez être en train de démontrer que vous cherchez Dieu de tout votre cœur, puis Dieu va vous accompagner dans votre vie, il va vous bénir, il va vous combler, et vous allez être rassasiés de mets succulents qui proviennent de sa présence. Prions. Amen. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour les versets qui nous amènent à se tourner vers toi, à rechercher cette communion avec toi, cette communion que tu promets dans ta parole, d'être avec nous à chaque moment de notre vie, puis de nous bénir, puis de nous combler. Seigneur, on veut pas regarder aux choses du monde, on veut s'approcher de toi. Puis pour cela, Seigneur, éclaire-nous, montre-nous le chemin, apprends-nous à marcher d'une manière qui te plaît, à obéir à ta parole, à fuir les faux raisonnements qui essayent de toujours de dire de pas faire ça, puis c'était dans le temps de Jésus, puis c'est pas besoin de faire ça. Non, qu'on mette en pratique ce que tu nous enseignes. On veut te montrer qu'on t'aime, Seigneur, qu'on t'aime de tout notre cœur. Puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies. On met notre confiance en toi pour y arriver. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.